Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
L'histoire dure une quinzaine d'années et se passe à Billy-Chevannes, un village de 300 habitants dans le sud-ouest de la Bourgogne. Elle a été abondamment documentée par nos confrères de striptease. Chantal Jeux a 64 ans, elle est agricultrice et possède une trentaine de vaches. Lorsque ses nouveaux voisins, Jacques et Geneviève, un couple de retraités parisiens, viennent s'installer, la cohabitation se déroule d'abord paisiblement. Une année même, Chantal est invitée à fêter le réveillon chez eux. Mais en 2001, le couple décide de s'agrandir et achète une grange abandonnée située juste entre leur maison et les étables de Chantal. Or, derrière les étables, justement, Chantal a l'habitude de garder son fumier à ciel ouvert. Et elle n'entend nullement changer ses habitudes. Bientôt, l'odeur nauséabonde et l'armée de mouches qui l'accompagne commencent à incommoder les voisins qui proposent de financer des travaux pour créer une installation de stockage de fumier aux normes. Chantal refuse net. Plusieurs tentatives de dialogue tournent court.
Mademoiselle Jeux était condamnée à 50 euros par jour d'astreinte.
Monsieur, on a fait un protocole d'accord, elle l'a refusé.
Vous êtes des fumiers.
Allez voir un psy, c'est grave. C'est grave.
Ah ben vous, hein.
Allez voir un psy.
Hey, vous êtes séniles, vous.
Tout ce qu'on fait, c'est mal.
Le fumier vous dérange là-bas et il vous dérange là. Et merde.
Chantal,
espèce de vieux con.
L'affaire prend alors une tournure juridique. Chantal est sommée par un arrêté départemental de mettre son tas de fumier aux normes pour un coût de 15 600 euros alors qu'elle ne touche que 7 000 euros par an. Elle refuse évidemment, le tribunal de Nevers est alors saisi par les voisins, les comptes bancaires de Chantal sont bloqués. Finalement, un comité de soutien créé par une centaine d'agriculteurs et de villageois fabrique lui-même un dispositif de stockage du fumier. L'histoire semble s'apaiser. Jusqu'en 2014, où les voisins découvrent que Chantal reconstitue régulièrement un nouveau tas de fumier près de leur terrasse. Retour au tribunal, recondamnation de Chantal à se mettre aux normes. Le journal Le Monde rapporte que la justice ne réussit toutefois pas à lui faire retirer le panneau qu'elle a accroché à ses volets, où on peut lire « Si haut que l'on se place, on n'est jamais assis que sur son cul ». Aujourd'hui dans Les Pieds sur Terre, nous sommes avec Roland Canda, conciliateur de justice au tribunal d'instance de Sens et alentour. Trois conflits de voisinage, adorables voisins par Alain Lefkovitch.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Bonjour Alain.
Bonjour monsieur.
Bonjour monsieur. Monsieur.
Alors, par rapport à votre demande, l'autre partie, c'est une personne âgée qui ne pourra pas être présente. Elle est malade, elle a des soucis de santé. Par contre, j'ai eu l'appel d'un voisin qui m'a contacté hier au tribunal en me donnant des informations et on a convenu de s'appeler lors de la conciliation.
D'accord.
Hein ?
Parfait.
Voilà. Alors, je vous propose de repréciser le contexte et puis la suite de ce dossier.
D'accord. Je vais essayer de formuler ça. Bon, j'habite rue des Charmes à Sens. Cette voisine, je la connais depuis 40 ans. Elle m'a toujours enquiquiné avec ses arbres. J'ai toujours été patient. J'y disais sans arrêt, coupez vos branches, coupez vos arbres, faites du propre chez vous. Il y avait des branches qui dépassaient jusqu'à 5 mètres, donc j'avais plus de jardin. Mais c'est surtout à l'angle de mon jardin, un arbre qui est dans sa propriété, il fait 30 mètres de haut et il est mort. Un jour, il va tomber chez moi, chez elle. C'est un sapin, un très gros sapin.
Vous avez des photos ?
J'ai des photos. Et si ce sapin il tombe chez moi, chez un voisin, il va faire des dégâts. Quand je suis dans ma cour, qu'on voit l'arbre, honnêtement, il est vraiment très inquiétant.
Oui, ça fait peur.
Oui,
que toutes les personnes qui venaient chez moi me disaient, mais c'est pas possible, un jour, avec la tempête, ça sera sur la maison, vous n'aurez plus rien. Ben oui.
Moi, j'ai des petits-enfants, je veux qu'ils viennent chez moi en sécurité. Parce que ce sapin, un jour, il tombera, il reste à savoir quand.
La bonne démarche dans le cadre du voisinage, hein, c'est normalement, on doit en parler aux voisins. S'il n'y a pas d'action, c'est après, quelques temps après, d'écrire un courrier simple. S'il n'y a pas de réponse au bout d'un certain temps, eh bien là, vous actez en recommandé, en disant, on s'est vu il y a 2 mois, je vous ai écrit un courrier simple, il ne se passe rien. Donc, c'est un courrier recommandé. Et derrière le courrier recommandé, il ne se passe toujours rien, et là, vous venez voir le conciliateur de justice. Qui, voilà, voilà. Mais vous avez passé les étapes précédentes?
Ah oui, 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 on a les lettres recommandées et tout.
Des réponses,
Vous avez eu des réponses quand même?
Oui, voilà. Comme quoi qu'on l'a harcelé, or que nous, on nous demande juste qu'elle est lague, puis qu'elle fasse l'entretien de chez elle, c'est tout. Hein. Ah, c'est une lettre qu'on y avait envoyée.
Celle-ci, c'est du 3 août 2017.
Vas-y.
Voilà. Vous avez un sapin de plus de 20 mètres de haut qui est entièrement mort et très sec, dont l'écorce décèle. Décolle, oui, je me dis ça. Et très dangereux pour les habitations s'il venait à tomber, ce qui ferait beaucoup de dégâts, sans compter les épines qui me bouchent la gouttière. L'article 673 du Code civil dit que tout arbre et arbrisseau qui ne sont pas à 2 mètres du mur doivent être taillés à hauteur de celui-ci. Dans l'espoir de garder un bon et courtois voisinage, veuillez croire, madame, à mes respectueuses salutations.
Et depuis, pas de réponse.
Pas de réponse, voilà. Alors, je vous montre le sapin qui est mort.
Bon, c'est un sapin mort, c'est clair. Ouais,
il est balèze, on ne peut pas dire autrement.
Il est très haut et il tient encore, mais bon...
La solution de ce sapin, c'est qu'un jour, il va tomber. Alors, autant qu'il soit aidé...
Donc, votre demande, c'est quoi, votre demande?
Ma demande, ça serait que ce sapin, il soit coupé, ou peut-être aux 3/4. Ça, si vraiment c'est un sapin qu'elle a planté étant gamine, je ne sais pas, elle veut en garder un souvenir, on va se contenter du 3/4 de la moitié.
Et quel est le complément de demande que vous avez?
Là, mon complément, ça serait que ces arbrisseaux soient qui ne dépassent pas de mon mur, parce que il me pollue la vie, parce que ça fait des petites graines, des petites épines qui tombent sur le toit, et de temps en temps, il y a un coup de vent, ça tombe dans ma piscine. Alors,
bon, je vais appeler là maintenant le voisin qui m'a contacté hier, qui va donner des réponses sur ce problème du sapin. Vous allez avoir des réponses là. Je prends son numéro.
Allô, oui, j'écoute.
Oui, bonjour monsieur. Monsieur Canda, le conciliateur de justice. Par rapport à votre voisine, vous m'avez indiqué pouvoir communiquer des réponses sur l'arbre, le sapin mort. C'est dans ce contexte-là que j'aurais donc souhaité pouvoir vous entendre et puis écouter, bien sûr, ce que vous allez, bien sûr, confirmer.
Eh bien, moi, j'ai eu des conversations avec la fille de Madame D.
Oui.
Et donc, elle a contacté des sociétés spécialisées pour l'enlèvement du sapin.
Oui.
Et normalement, ça doit être fait avant la fin de l'année.
Il sera coupé ou étayé ou c'est vraiment coupé?
Ah non, il sera carrément supprimé. Hein.
D'accord, c'est ça que je voulais entendre.
De toute façon, je vous dis, c'est pas n'importe qui va faire ça.
D'accord.
C'est une entreprise qui est spécialisée et qui est connue sur la région de Sens. Hein.
Bon, et...
Ce que je viens de vous dire, moi, je vais vous le confirmer par mail.
Eh bien, écoutez, je vous remercie vraiment de votre action et je vous souhaite une bonne journée.
Bonne journée.
Vous aussi, merci. Donc, moi, je considère que j'attends maintenant cette copie de devis.
Copie d'un devis, mais d'un devis signé.
Oui, mais...
Ah non, parce que attendez, ça fait 40 ans qu'elle mène en bateau pour un arbre. Bon. Alors, elle finit par faire quelque chose, mais au bout de 5 ans...
Je suis sur le pont maintenant, donc je suivrai le...
D'accord.
Ouais. Non, je suis impliqué. Là,
avant de continuer d'être patient, je veux que ça soit quelque chose qui soit fait.
Ce que je retiens, vous avez bien entendu, il y avait le haut-parleur, ce voisin me confirme que nous allons rester en contact. Donc, j'ai son adresse mail, j'ai son téléphone. Donc, j'ai pas de soucis.
Ok, voilà. Rendez-vous à fin décembre.
Voilà,
merci bien. Ça nous remet un peu espoir qu'on avait peur quand même. Avait peur. Hein. Voilà. Au revoir, monsieur.
Voilà. Merci,
madame.
Bonjour monsieur.
Enchanté.
Eh ben, c'est bien la première fois qu'on reçoit un monsieur de RTL.
France Culture.
Pardon?
France Culture.
Ah oui, c'est pas pareil.
Non, c'est pas pareil, non.
Ah ouais, alors entrez donc. Asseyez-vous.
Qu'est-ce que vous voulez vous présenter?
Christiane, 82 ans. Depuis 1976, on a des problèmes. J'ai mon voisin de derrière, qui avait un jardin qui n'était pas entretenu, avec de l'herbe qui poussait et qui passait à travers le grillage de chez nous. Bon, donc, je lui ai téléphoné plusieurs fois. Il répondait pas, ou s'il répondait, oh ben il allait s'en occuper. Et ça demandait des fois 3-6 mois. Alors, si bien que je suis une assurance juridique, donc il lui a envoyé un courrier. Donc, il a nettoyé, mais au bout de 2 mois. Et ensuite, il a envoyé un courrier à l'assureur en lui disant qu'il avait bien coupé, mais c'était de la pelouse. Alors que c'était pas de la pelouse, c'était de l'herbe qui était à graines, qui passe à travers le grillage. Alors, donc, voilà, ça s'est bien passé pour un an. L'année suivante, ça recommence. Alors là, il y avait des chardons.
Alors, pourquoi ça vous dérange, les chardons ?
Bah, écoutez, les chardons, pourquoi ça me dérange ? Mais quand ils sont en fleurs, eh ben, ça vole. Et après, on a des chardons dans le jardin. Et mon mari, il a quand même 85 ans, hein ? Eh ben, on pioche les chardons et ça repousse. Et ça fait des graines dans le potager. Ça poussait dans nos plantes. Alors, on était obligé de désherber. Alors, de gratter, d'arracher. Enfin, ça s'arrachait bien, mais il fallait l'arracher quand même.
C'est pas drôle, hein, vous savez. Alors, je suis obligé de gratter presque tous les 3-4 jours des chardons qui repoussent.
Ben oui.
C'est infernal. Hein. Même un désherbant, ça va pas jusqu'au fond.
Donc, j'ai contacté la mairie, le service hygiène, nuisance hygiène. Et donc, la dame, elle était venue, mais c'était lui qui lui avait montré la maison, il lui avait pas montré vraiment la partie qui avait beaucoup de chardons. Donc, je connais un monsieur de la mairie, à une réunion de quartier, je lui ai dit que je voudrais que la dame des nuisances, elle vienne chez moi. Donc, elle vient et elle me dit, « Oh, ben, vous savez, j'ai vu pire que ça. » Ben, je dis, « Vous pouvez rien faire. » Ben, elle me dit non. Donc, je suis allée à la mairie qui m'a dit, « Oh, ben, vous savez, j'ai d'autres problèmes plus graves que ça, » qu'elle m'a dit, la mairie. Voyez un médiateur. Voilà, c'est pour ça que j'ai vu Monsieur Corda. Et alors, avec ce médiateur, eh ben, écoutez, j'avais pourtant toutes les photos lui montrer que c'était plein de chardons tout en fleurs et qui commence à traverser le grillage. Donc, M. Conda a dit, ben écoutez, il faut nettoyer à 40 cm. Bon, il avait nettoyé un petit peu plus, mais cette année, les chardons ont repoussé. Alors, vous savez, c'est un problème, si bien que pour éviter tout ça, on a posé un brise-vue pour éviter que ça traverse le grillage. Alors, ben venez voir. Je vais vous le montrer par une fenêtre. Pardon, voilà le jardin. Alors, vous voyez, il y a déjà des chardons qui commencent à repousser. Vous voyez, on en voit un qui est fleuri. S'il avait plus, ce serait pire que ça. Ah, vous savez, c'est pas rien. C'est interdit, les chardons dans les jardins. C'est interdit parce que les chardons dans un jardin, ça fait de la graine et ça vole partout.
Ça va partout.
Alors, je crois qu'on n'a pas tort de rouspéter. Là, ça va depuis qu'on a mis une brise-vue, mais avant, il y avait des fois, vous savez, ça, la nuit, ça nous travaillait un peu quand même. Hein. Parce qu'il est toujours de mauvaise foi, il ne s'occupe même pas de la maison, c'est un vrai fouillis.
C'est dommage, parce que la maison est pas mal, une belle petite maison. Quoi.
Ouais,
et il a construit en même temps que nous.
Il habitait en 70,
oui,
un petit peu avant nous. Mais ses parents, très gentils, hein, très gentils. Mais alors lui, je vous explique pas. Je vais vous dire une chose, il a passé sa vie plus au chômage qu'à travailler, hein, et voilà. Mais alors, moi, je m'en fiche de ça, mais qu'il entretienne son terrain.
C'est pour nous, il se moque de nous, quoi.
On pense que c'est un peu de jalousie qu'il fait exprès. Parce que comme notre maison, elle est entretenue et qu'on a fait mettre des volets électriques, on fait beaucoup de travaux, enfin,
selon nos moyens. Alors, est-ce que c'est ça qu'il... Enfin, on ne sait pas. Mais les voisins, ils sont derrière, ils sont comme nous, disent, il fait exprès pour nous embêter de ne pas nettoyer. Alors, c'est désagréable quand on a un voisin comme ça.
Donc là, on est à la pointe sud de l'île d'Yonne, à Sens. Donc une encablure du centre-ville de Sens. Donc on habite là. C'est là. Je m'appelle Rémi Rougnon-Glasson. Je suis douanier. Voilà. Donc tout a commencé ici. Donc cette maison qui est totalement enclavée, qui n'a pas d'accès en propre, a été achetée il y a à peu près 2 ou 3 ans. Donc le voisin bénéficie d'un droit de passage d'un mètre seulement sur la section qui est devant nous, qui fait à peu près une 20aine de mètres. Alors quand le voisin a acheté sa maison, donc une maison de très petite taille, hein, dans un endroit où l'immobilier est très bas, il espérait racheter du terrain, voyant que la surface que nous avons, nous, est très grande. Et puis, donc, il y a 1500 m² en tout. Hein, donc, et qu'on n'entretenait pas forcément partout. C'est pas une pelouse tondue à l'anglaise, hein, mais c'est délibéré. C'est notre façon de cultiver notre terrain. Donc, le voisin nous a demandé une première fois s'il pourrait nous acheter du terrain. Puis une deuxième, puis une troisième. Puis après, il était question de louer du terrain. Donc nous, on a répondu systématiquement, très clairement, dès le départ, que non. Puisque si on avait acheté là, c'était dans le but d'être ouvert, d'avoir un cadre champêtre. Donc on n'était pas du tout vendeur. Et la situation a commencé à s'envenimer à ce moment-là. Jusque-là, les rapports étaient très bons. D'ailleurs, comme il n'avait pas de quoi stationner, on lui a confié la clé de portail. Il l'a eu pendant 1 an et demi, d'une part pour pouvoir se stationner, puis d'autre part parce qu'il souhaitait ravaler sa façade. Donc, j'ai reçu ni remerciement ni quoi que ce soit. Par contre, j'ai reçu un texto où il me disait « Est-ce que vous pourriez retirer la multitude de poires qui jonchent notre droit de passage ?» Donc, sur un ton un peu comminatoire. Donc première friction, j'avais quand même répondu, j'ai pas la clé du portail, donc pour ramasser les poires qui jonchent le sol, comme vous dites, ça m'est quand même un peu compliqué. Et puis d'autre part, j'aurais préféré accessoirement avoir un petit remerciement pour ce geste. Par la suite, je me suis dit, on va quand même pas se retrouver en animosité pour quelques poires qui jonchent le droit de passage. Donc je l'ai invité à prendre un café. Et puis là, j'ai souhaité apaiser les choses et... À un moment, sa réponse a été « Oui, mais vous comprenez, c'est quand même pas drôle pour ma femme, quand elle sort en talon aiguille, d'avoir l'aiguille du talon qui rentre dans une poire. » Donc, à partir de là, je me suis dit « Ça va quand même être très très difficile d'arriver à s'entendre. » Pendant ces événements, eh bien, il s'est fomenté quelque chose, il a monté la tête des voisins retraités. Dans une espèce de réunion qui avait eu lieu, où il était question d'aller nous dénoncer en mairie pour une cabane en bois. Alors, si vous le voulez bien, on va aller du côté maintenant de la cabane en bois. Donc, voilà la cabane en question. Donc, d'une fois que j'avais fait l'ossature en bas, il était intéressant de faire une partie haute, d'une part parce que mes enfants étaient plus jeunes à cette époque-là et puis qu'ils pouvaient en profiter comme une cabane d'enfants, c'est à ça que c'est dédié, et d'autre part parce que, étant en zone inondable, ça permet d'avoir une zone de sécurisation des biens en cas de montée de l'eau. Tout est en bois et des vis et c'est démontable en 24 heures. Et c'est non électrifié et vous voyez, il n'y a même pas d'escalier pour y monter. Donc il n'y a pas de risque de densification de population, c'est pas habitable, ça ne le sera jamais. La largeur fait à peu près 2 mètres et la longueur fait à peu près 6 mètres. Voilà pour ce qui est de la cabane. Donc, cette cabane avait fait l'objet d'un point de crispation du voisin qui est situé au sud de cette maison. Il avait signifié que ça l'embêtait un petit peu puisqu'on voyait la partie haute de la cabane depuis son terrain, que lui estimait que c'était pas valorisant C'est vrai que c'est de la planche non rabotée. Donc j'avais dit, si vous voulez, je peux mettre du lambris vernis ou je peux faire un petit côté chalet mignon, s'il préférait. Ça, j'étais tout à fait ouvert à ça. Donc, c'en était resté là. Jusqu'à ce que donc on apprenne par un autre voisin qu'il y avait eu une réunion en journée où il était question de nous dénoncer en mairie. Alors j'ai appris depuis peu qu'ils avaient carrément signé une pétition commune. Alors l'idée d'aller les voir était pas forcément une mauvaise idée, mais on croit se mettre autour de la table. Et puis finalement, la discussion c'est qui est le corbeau ? Et les personnes qui viennent rougeant, qui se mettent à crier de colère, et puis claquer des grands coups de main sur la table. Enfin, c'était une crise de nerfs en disant « Mais qui est le corbeau ? Tu vas nous dire qui est le corbeau ?» etc.
Le corbeau, c'est-à-dire ?
La personne qui a entendu les voisins, qui est venue nous rapporter les propos qu'elle a entendus. Parce que ce qui s'est passé par la suite, c'est qu'ils se sont tous soupçonnés les uns les autres qui est le corbeau parmi eux. Dès le dimanche soir, ils ont commencé à plus dormir avec ça, où ils se sont demandé chacun si c'était pas l'autre qui n'avait pas eu des scrupules et qui serait venu nous voir. Mais elle a eu une vertu, cette réunion, quand même. C'est qu'à un moment, le voisin qui a la maison enclavée a perdu ses nerfs et s'est dévoilé. C'est-à-dire qu'il s'est mis à crier « De toute façon, depuis le début, j'ai un dossier sur vous. » Puis il nous a mis montré une pile de documents. « Et puis, je peux plus vous voir. Puis vos propriétés, je peux plus l'avoir. Puis j'ai fait venir des huissiers, etc. » Enfin, il avait déjà dépensé des sommes non négligeables en huissier et un avocat. « Foutez le camp de chez moi. Dehors, je peux plus vous voir ici. » Mais donc, on a été jetés à la porte. Ça a quand même montré qu'il y avait une haine cachée de longue date, que la situation, de toute façon, était déjà largement pourrie. Donc, ce que j'avais eu le temps de dire, quand même, c'est que, eh ben, si on n'arrive pas à trouver une solution, eh ben, tout simplement, on va se conformer au droit. Et moi, je vais tenter de régulariser la cabane. Si je ne régularise pas, tant pis pour moi. Là, il y a eu une levée de bouclier, j'en avais pas bien saisi la portée sur le moment. Toutefois, je savais que la personne de la petite maison enclavée avait fait une extension à sa maison. Sous prétexte de faire une véranda, il avait fait son séjour intérieur, en fait, alors qu'on est en zone rouge, inondable, en dessous de la ligne de crue. Je savais qu'il n'était pas dans les clous, mais bon, ça ne me portait pas plus préjudice que ça, donc moi, je n'allais pas lui chercher des poux avec ça, personnellement. Et puis, celui qui a la maison blanche, le long de notre terrain, lui, il avait créé ex nihilo une véranda en matériaux lourds, et qu'il avait remanié sa maison en conséquence, c'est-à-dire fait l'entrée par cet endroit-là, déplacé un petit peu l'agencement intérieur, et je savais qu'il n'avait pas d'autorisation, puisqu'il me l'avait dit lui-même à l'époque où on s'entendait encore bien. Donc voilà pourquoi ça a été la levée de bouclier quand j'ai dit qu'on se conformait au vrai et au droit, c'est que chacun a pensé à lui et a paniqué. Alors, c'est quand même pas très malin de la part de voisins d'aller dénoncer quelqu'un pour une vulgaire cabane en bois quand soi-même on est reprochable. Là, c'est plus de l'ordre de la bêtise. Donc, j'ai tenté de régulariser. J'ai pas pu obtenir gain de cause. Donc, le service de l'urbanisme nous envoie une lettre recommandée posée dans la boîte aux lettres, sans que le facteur demande la signature. Ceci dit, à peine 15 jours plus tard, on reçoit une nouvelle lettre recommandée nous accusant de ne pas être allé chercher la première. Et sur un ton parfaitement impoli. Donc, on est surpris, on souhaite être reçu. Et on a été reçu. Là, on est venu avec toutes les photos des constructions des voisins. Et là, le responsable du service et l'autre personne ont eu vraiment les yeux qui sortaient des orbites. Donc là, le service d'urbanisme était parfaitement conscient que ce qui était construit après autorisation n'était pas forcément conforme à ce qui figurait sur l'autorisation qui, elle, est en bonne et due forme. Ils nous ont invités à leur faire un courrier. Donc on a fait un courrier, une lettre recommandée, avec toutes les photos, les numéros de parcelles, les noms des personnes, etc. Et puis là, pas de nouvelles. Donc on les relance, pas de réponse, on relance par lettre recommandée. Et là, on nous renvoie un courrier simple où il était dit que les autorisations délivrées étaient en bonne et due forme. On n'a jamais eu de doute que les autorisations délivrées, elles étaient. C'est ce qui a été construit après qui pose problème. Donc là, franchement, on a compris qu'on était banané par le service de l'urbanisme. En gros, c'est circulaire et rien à voir. C'est-à-dire que s'il y a eu une faute de l'administration, vous êtes encore plus face à un mur parce que l'administration, ne voulant pas reconnaître son erreur, va s'enfermer dans sa position. Donc, c'est pas fini. On est dans une situation où on a trois voisins avec lesquels on ne se parle plus. Là, je sors d'une entrevue parce que la mairie porte plainte puisque j'ai pas eu l'autorisation pour la cabane. Et j'ai dû me rendre à la police nationale pour répondre à l'accusation de la mairie. Puis la policière a été très gentille. Elle convenait bien de l'injustice qui nous était faite. Ceci dit, elle disait, pour votre tranquillité, etc. Plus simple, ça serait que vous démontiez. J'ai jamais fonctionné comme ça. Je pourrais jamais fonctionner comme ça. Quoi. Si je suis dans mon droit et que j'ai des recours, je les utiliserai. Et là, j'épuiserai tous mes recours. Si ça doit me coûter 50 000 euros d'avocat, ça me coûtera 50 000 euros d'avocat. Mais je ne laisserai pas un boulevard pour les comportements qu'on a rencontrés.
Adorable voisin, c'était un reportage d'Alain Lefkovitch réalisé par Emmanuel Geoffroy. Merci à Roland Canda et aux personnes que nous avons rencontrées, bien sûr. Camille Richir, c'est notre stagiaire, et Jeanne Delecroix, c'est l'attachée de production des Pieds sur Terre.